Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Je vous propose un quatrième entretien cette semaine pour traverser parmi toutes les crises que nous traversons avec vous. Et bonjour docteur Isabelle Morel.
Bonjour à tous.
Parmi toutes ces crises, parmi toutes ces conférences que vous présentez pendant ce pèlerinage du rosaire dans ce sanctuaire de Lourdes, nous ouvrons ce volet sur ce thème de la révolution numérique. Quel est l'enjeu et comment traverser cette révolution numérique, docteur Morel ? Quels sont les enjeux et puis les sorties ?
Alors les sorties, je ne sais pas s'il y en aura, mais en tout cas, il est clair que nous sommes dans un temps qui révolutionne beaucoup nos manières de penser, nos manières d'agir, nos manières de transmettre. Voilà. Alors on peut commencer par regarder ce qui évolue avec le numérique et principalement avec Internet aussi. Hein. On voit bien que de plus en plus de personnes sont sur des écrans de plus en plus petits, des smartphones, ou sont aussi passent beaucoup de temps sur des réseaux sociaux.
Et à tous les âges de la vie, hein, des petits aux seniors, hein, oui. Il n'y a plus de limite d'âge.
Mes parents ont avec plaisir récupéré mon ancien iPad et prennent plaisir à s'en servir. Il y a des bons côtés, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de renier non plus la technique.
On n'est pas là pour diaboliser le numérique.
Hein. On est là pour prendre... pour voir exactement comment ça vient impacter notre manière de vivre, de penser et puis de réagir. Alors j'aime bien raconter cette petite histoire que nous devons à Michel Serres. Michel Serres, ce grand philosophe qui nous a quittés il y a pas longtemps, qui a écrit un magnifique petit bouquin qu'on peut conseiller à tous les auditeurs, qui s'appelle Petite Poucette. Alors ce qu'il appelle Petite Poucette, c'est sa petite nièce qui est en permanence sur son téléphone avec les pouces qui s'agitent. Voilà. Et son neveu, il l'appelle Petit Pousset. C'est très délicieux. Et c'est ça, c'est un tout petit livre qui se lit en même pas une heure, qui coûte 5 euros. Vraiment, ça serait dommage de s'en priver.
Alors, bonne publicité.
Oui, il raconte dans ce livre-là l'histoire de Saint-Denis. Saint-Denis, c'est un des saints de la ville de Paris. On raconte que Saint-Denis a été décapité à l'endroit où on a aujourd'hui la basilique de Montmartre et qu'il s'est promené avec la tête dans ses mains en direction de la basilique Saint-Denis actuelle, qui n'était pas encore construite, évidemment. Voilà. Et il dit ceci, aujourd'hui, nous sommes tous des Saint-Denis. C'est-à-dire que nous avons notre tête dans nos mains, vous voyez bien ? C'est-à-dire que, en fait, le rapport au savoir a complètement changé. Moi, je le constate avec mes étudiants, par exemple. Je n'enseigne plus du tout de la même manière que je le faisais il y a 20 ans. Par exemple, nous posons une question pour se dire, bah oui, ça c'était en telle année, je ne fais même plus l'effort de retenir la date, je dis, cherchez voir, et en 10 secondes, ils ont trouvé la date dans leur téléphone ou sur leur ordinateur. C'est-à-dire que vous voyez bien, nous avons notre tête dans nos mains. Nous avons à portée de doigt des quantités absolument astronomiques d'informations. Ça change notre rapport au savoir. Aujourd'hui, un bon prof, c'est plus un prof qui en a plein dans la tête. Un bon prof, c'était ça avant. C'était quelqu'un qui avait retenu beaucoup d'informations et qui était capable de vous les donner. Du coup, ça donnait des cours très magistraux en amphi où il fallait emmagasiner des connaissances. Aujourd'hui, un bon prof, c'est pas ça. Parce que tous les étudiants sont connectés dans l'amphi. Sont connectés non seulement avec leur ordinateur, mais sont connectés avec leur portable. Ils vont vérifier ce que vous dites. Et donc, le bon prof, ce n'est pas celui qui a beaucoup de choses dans la tête, c'est celui qui est capable de créer des liens, qui est capable de vous montrer la logique argumentative, qui va vous permettre de créer des articulations entre les concepts, qui va vous rendre plus intelligent dans la manière même dont vous allez pouvoir réfléchir. Et donc, en fait, vous voyez que ce rapport au savoir, il change aussi le mode de transmission. Ça impacte sur la foi. Si on considère que la foi, la transmission de la foi, c'est simplement une transmission de connaissances, alors on voit qu'il y a un problème. Parce que la transmission de connaissances ne suffit pas. Et il faut donc se préoccuper aussi de la manière dont on transmet, y compris en inventant d'autres manières de faire et en se préoccupant de la vie intérieure de chacun. Ça, ce n'est pas une transmission simplement de connaissances intellectuelles.
Vous-même, vous avez fait ce déplacement en tant qu'enseignante par rapport à vos élèves.
Oui, alors moi,
c'est l'expérience qui parle.
Oui, bien sûr.
Permettez-moi.
Évidemment, nous enseignons alors déjà à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris. Nous nous battons pour avoir des salles où le mobilier est mobile, hein, de manière à pouvoir faire des petits groupes et de pouvoir avoir des séquences interactives. Voilà. Et en même temps, ça ne nous empêche absolument pas d'avoir aussi des temps plus magistraux, parce qu'on a besoin aussi d'une transmission de connaissances, mais on a surtout aussi besoin de mettre en relation des éléments. On travaille beaucoup en séminaire de recherche, par exemple. Voilà. Et ça, c'est possible. Beaucoup d'éducateurs, aujourd'hui, se posent la question où on fait ce déplacement-là aussi. Donc, vous voyez, évolution du rapport au savoir, évolution aussi, pour ce qui nous concerne, et qui impacte fortement notre foi, du rapport à la vérité. Est vrai, aujourd'hui, sur Internet, non pas ce qui est dit par une institution, mais ce qui a le plus de j'aime. Vous savez, quand on like sur Facebook, sur Twitter, sur
tous les réseaux sociaux. Où il y a tous les âges, voilà, de la vie, des petits,
exactement,
aux seniors.
Eh bien, ce qui fait office d'autorité, d'une certaine manière, ou de vérité, ça va être l'ensemble du nombre de personnes qui auront le plus aimé ce que vous avez dit. Et on voit bien aujourd'hui, avec l'avènement de ce qu'on appelle les fake news, les fausses informations, combien le rapport à la vérité est entaché. Il suffit plus de donner une information avec une parole d'autorité pour que ça puisse être compris comme vrai. Voilà, qu'est-ce qui est vrai ? Pour nous, dans la foi, Jésus-Christ a dit « Je suis la voie, le chemin, la vérité et la vie ». Voilà. Alors, mais de quelle vérité parle-t-on ? Est-ce que je peux démontrer scientifiquement l'existence de Dieu ? On n'est pas là. On est sur une foi qui se transmet aussi dans la vie intérieure, la maturation intérieure, l'adhésion à une personne vivante. Et on voit bien que ce n'est pas quelque chose de sensible. Je dois quitter le monde de la technique pour arriver à le faire. Et le monde de l'Internet nous met un peu ailleurs.
Voilà. Et ce monde de l'Internet, ce monde du numérique, ce monde que vous décrivez a un impact très fort chez la personne, chez les personnes. C'est cette dépendance aussi, oui, à ce numérique et au fond cette addiction qui, oui, peut s'installer.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. On se retrouve avec des personnes qui ont du mal du coup de penser autrement. Alors voilà, ça c'est aussi un élément qui est à prendre en considération.
Une paresse aussi peut s'installer.
Ben, oui, une paresse ou en tout cas une manière de penser différente. Il s'avère que un certain nombre de scientifiques vont observer que nous avons des manières différentes de penser. Voilà. Alors, par exemple, ça va se ressentir aussi pour nous dans notre rapport à l'autorité. Vous voyez bien, sur Internet, on est dans un fonctionnement en réseau, c'est un fonctionnement horizontal. Il n'y a pas de centre, ou il n'y a pas de sommet, je ne sais pas comment vous le dire. Il n'y a pas une instance qui dirige toutes les autres. Voilà. Eh bien, le problème, c'est que nous avons tous appris à fonctionner comme ça. Et donc, une parole aujourd'hui, elle a besoin d'être individuelle. Tout le monde a envie de se faire entendre sur tout. C'est bien ça qui impacte aussi les décisions politiques aujourd'hui. Hein, on le voit pour des tas de questions. Et dans l'Église, notre difficulté, c'est que nous avons un centre. Donc on ne peut pas fonctionner comme le fonctionnement des réseaux numériques, alors que c'est structurant. Hein. Nous avons un centre, c'est Jésus-Christ. Et donc, on est un peu dans une logique différente. Là, on s'y frotte un peu. On est structuré par le monde numérique dans la société habituelle. Et puis, dans l'Église, on continue à avoir un centre. Mais c'est aussi ce centre qui fait notre communion. C'est à la fois...
Et l'équilibre et la force.
Oui, mais on peut le dire comme ça. C'est-à-dire la force de tenir, y compris devant les choses difficiles. Hein, et donc, c'est à la fois notre limite et puis notre chance. Donc, faut apprendre à le gérer et peut-être à le vivre comme ça.
Et au fond, c'est peut-être cette force même pour l'Église.
Peut-être que la hiérarchie de l'Église, pour le dire comme ça, puisque c'est la question de l'autorité, c'est à la fois une de ses limites et puis une de ses forces. Parce que ça maintient la cohésion. Voilà, tout dépend comment on l'envisage. C'est toujours pareil. Quand on fait partie de cette hiérarchie, qu'on a des responsabilités, est-ce qu'on l'envisage comme un service ? Un service comme le Christ qui lave les pieds, ou est-ce qu'on l'envisage comme une occasion de mettre la main sur les autres ?
Donc, et là, on peut penser aussi à toutes ces démarches aussi professionnelles qui deviennent des démarches non plus de service à l'intérieur même de l'Église, mais du carriérisme.
Oui, ça marche partout.
Ça marche partout, hein. Que ça soit dans le numérique, il y a des révolutions de partout.
Oui, exactement.
Mais on peut en sortir, vous avez ce regard positif.
C'est-à-dire que je ne sais pas si on peut en sortir, on est dedans, voilà, et donc on a...
Quand je dis sortir, c'est parce qu'on a un trousseau de clés,
oui.
Et avec les clés, on ouvre les portes.
Peut-être, oui, que la clé qui nous permettrait de s'y sentir bien, voilà, ça serait de le regarder avec espérance, c'est-à-dire que tout est possible. Le pape dit tout est lié, mais tout est possible aussi. C'est la manière de comprendre aussi les temps de crise qui sont forcément des temps un peu déstabilisants, comme des chances pour la foi aussi, l'occasion de se reposer les bonnes questions.
Et de rebondir au bon moment et surtout de ne pas avoir peur de s'interroger et de se poser ces questions.
Oui, parce que ça fait partie de notre responsabilité d'avoir à transmettre aussi aux autres.
Tout à fait. Et on est dans la transmission toute cette semaine, au cœur même des crises, mais dans la transmission de la foi. Docteur Isabelle Morel, je rappelle que vous êtes enseignante d'éthologie et maître de conférence à l'Institut catholique de Paris. On se retrouve toujours en temps de crise avec vous. Temps de crise, mais de sortie ou de traverser pour parler dès demain. Ça sera un peu la conclusion de cette série de la formation pour tous. Un enjeu. À demain, à la même heure.